Quelques notes sur la liberté. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Benjamin. J'ai une première question. Qu'est-ce qui a été à l'origine, à la genèse de ce court-métrage sur Michel Portal ?
Bonsoir. C'est en effet la première question qu'on me pose en général, et en effet, vu le décalage, l'écart d'âge entre lui et moi aussi, ça pourrait être surprenant de se dire, mais comment vous avez rencontré cet immense musicien? Et donc, en fait, ça s'est fait à partir d'un autre film que produisait donc ma productrice Sophie Faudel, et dont Michel Portal faisait la musique. Et elle m'a invité à filmer cet enregistrement. À partir de là, j'ai senti un rapport entre lui et moi tout à fait naturel, qui s'est fait sans doute justement à cause de cet écart d'âge, comme un rapport de transmission ou de... il avait quelque chose à me dire d'un coup. J'étais un récepteur, quoi. Et donc je me suis dit, là, il faut en faire quelque chose. Et donc je lui ai proposé qu'on se revoie. Et je me suis demandé comment faire pour se revoir, sachant que c'était Michel Portal et que je voulais surtout pas faire une captation de concert. Ce que d'autres font très bien, ça existait déjà, et puis il n'y avait pas d'occasion. Là, c'était vraiment un dialogue. Je voulais une conversation. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'idée de lui proposer tout l'espace et tout le temps pour composer une musique en direct face à la caméra. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée du film.
Et vous connaissiez la musique de Michel avant, auparavant, ou...
Bien sûr, oui, j'aimais beaucoup sa musique, sans être un spécialiste de Michel Portal, mais j'avais vraiment une connexion à sa musique très forte. Et d'ailleurs, les premières fois qu'on s'est vus, avant de se retrouver au Théâtre de l'Alliance Française, où le film a été tourné, à Paris, boulevard Raspail, on a écouté pas mal de musique ensemble, en fait. C'est moi qui lui mettais de la musique. Lui, il n'a pas accès aux plateformes comme on peut l'imaginer. Il était complètement comme ça, dans une espèce de nébuleuse, avec des bribes de musique qui revenaient dans sa mémoire. Et moi, je m'amusais à lui mettre un morceau que j'aimais et de voir comment il réagissait. Évidemment, il connaissait beaucoup, et notamment de l'intérieur, la musique. Et donc, il se mettait, non pas à me dire « ça, c'est telle personne qui joue », comme peuvent le faire certains, mais lui, il a un rapport qui est vraiment complètement intérieur à la musique. Il chantait, tout simplement. Comme on le voit dans le film, il chante les notes, il les connaît, il connaît les chorus, il connaît les lignes de basse. Et donc ça m'a beaucoup touché. J'ai essayé de le rendre dans une séquence du film, une des séquences qui ouvre le film, où justement je lui tends mon téléphone avec un morceau tiré de Der Armée Solo. Et là, il l'écoute et il est surpris de s'entendre. Parce qu'il n'a pas du tout un rapport à sa musique, comment vous dire, muséale. Je pense pas que chez lui il y avait sa discographie dans l'ordre chronologique. Il redécouvrait presque cette musique. Je pense pas du tout qu'il passe son temps à se réécouter. Je pense que c'est quelqu'un qui, au contraire, était dans l'instant, c'était un animal de scène, quoi, une bête même de scène, on peut dire. Et donc, c'était très, très drôle de faire ça. Par exemple, je me souviens de lui avoir fait écouter un album d'Eddie Lewis, Sentimental Feelings, et il pleurait, quoi, carrément, quoi. Enfin, c'était, il faut dire que la musique, elle est d'une mélancolie incroyable mais donc c'était tout de suite une connexion par la musique, par une autre langue que la langue qu'on parle là. C'était le bonheur de la musique, quoi. Quelque chose comme ça qui est au-dessus, quoi, de la parole et du langage.
Alors, je vous rassure sur l'idée de se réécouter de tous les musiciens qui sont passés dans ce studio, et je suppose tous ceux qui passeront, aucun ne m'a dit « je suis content de me réécouter
». Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est dur, c'est difficile. Mais je veux dire, il n'a pas de... en même temps, il n'était pas mécontent de s'écouter. C'est-à-dire qu'il s'écoutait avec une certaine surprise. Mais c'est vrai que sans doute, c'est pas propre à Michel Portal. Mais en tout cas, j'ai utilisé ce plaisir qu'il avait à écouter, comme s'il redécouvrait ses albums, quoi. Et je pense sincèrement qu'il n'avait pas dû le réécouter depuis un moment.
Je pense que la plupart des musiciens ne réécoutent pas du tout leur musique. Là, j'étais au studio d'enregistrement d'un musicien, d'un quintet. Et à chaque fois, je posais la question, tu te réécoutes. Alors, il réécoute évidemment pendant les enregistrements pour écouter les prises, les bonnes, bon, le mixage. Et après, ils oublient et ils veulent pas en entendre parler. Et puis, quand on leur fait réécouter des trucs anciens, même des fois, j'en ai piégé un ou deux, on dit, ah tiens, c'est bien ça. Il dit, ah mais oui, mais c'est moi, je me souviens, c'était avec machin. Ah oui, c'était pas si mal. Donc, bon. Je pense qu'il y a toujours ça.
C'est vrai.
Moi, je suis musicien et Franck, qui fait la technique, et mon comparse en musique aussi, on n'aime pas se réécouter du tout non plus. Hein, je veux dire, c'est une horreur absolue parce que on n'entend que les pains, hein, comme on dit. Et donc, voilà. Déjà, autre élément de la genèse, c'est ça a été organisé quand ?
En fait, ça a été tourné entre 2021 et 2023, sur 2 ans, et on se donnait donc des rendez-vous réguliers tous les 3 mois environ, parce qu'en fait, ça dépendait du moment où lui se sentait prêt à jouer, et donc à chaque fois il y avait l'angoisse qui n'accepte pas de continuer, parce que comme il répétait toujours, il disait je ne suis pas monsieur loyal, mais en même temps il n'a jamais annulé un rendez-vous de tournage, donc c'était une façon de savoir se faire désirer et de faire en sorte que toutes les conditions seraient réunies pour que il ait justement tout le temps et tout l'espace pour jouer, parce que le défi était énorme pour lui de jouer seul, vraiment face caméra. C'était pas vraiment comme ça qu'il avait l'habitude de jouer. Donc au départ, c'était quand même, il nous disait, voilà, je sais pas, il hésitait, tout ça. Donc le film montre cette progression et l'album aussi. Et donc c'était cette idée-là de voir comment la musique naissait dans un musicien, chez un musicien qui compose en jouant, en improvisant. Enfin, donc c'était ça l'idée.
Mais est-ce que finalement on arrive à percevoir le processus créatif? C'est toujours quelque chose de très complexe, de savoir pourquoi telle note plutôt qu'une autre.
On n'arrive pas évidemment à tout comprendre, mais on voit au moins l'esprit avec lequel il composait, que justement je ramènerai à cette idée des bribes, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui aimait énormément beaucoup de choses très différentes et qui mettait dans ensemble et qui découpait, qui montait, et donc il y a beaucoup d'effets comme ça, de à la fois de citations et en même temps de fulgurance à l'intérieur de ça, et donc c'était la cuisine de sa musique. C'est l'image que j'emploie le plus facilement pour ce film, c'était qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine de Michel Portal, d'un interprète et d'un compositeur comme lui. Et donc, en fait, moi, je crois beaucoup à la beauté de ça, de voir ce qu'on ne voit pas normalement quand on est au restaurant, c'est-à-dire comment on choisit les ingrédients, comment on les coupe, tout ça. Donc, à la fin, on ne sait pas faire la recette du chef, mais on a l'impression de s'être rapproché de sa vérité, et puis soi-même dans la vie, qu'on soit musicien ou non, on repense à ses gestes et on les fait en se disant que voilà, d'autres les font beaucoup mieux, mais qui nous inspirent, quoi. Et je pense que lui, il a fonctionné comme ça, parce que il parle souvent de la découverte de Charlie Parker, de Ornette Coleman, tout ça. Donc c'est aussi une histoire de transmission pour lui. Enfin, c'est quelqu'un qui a été bouleversé très profondément, très jeune, et toute sa vie par la musique, et qui a rendu aussi de ça au public. Et nous, pour ce film et cet album, on était comme ça, on se prenait tout ça en haute dose. C'était fabuleux, quoi.
Oui, c'est, pardon, c'est un musicien très protéiforme, hein, qui a, et à qui on reprochait beaucoup de choses.
Oui.
Justement, les classiques lui reprochaient de mettre une part de jazz dans le classique. Les jazzeux disaient que c'était pas vraiment un jazzman. Enfin, donc, c'est quelqu'un qui a été de plein d'expériences. Moi, je l'ai beaucoup vu, évidemment, sur scène, étant donné que je suis pas tout jeune. À chaque fois, dans des contextes toujours un peu différents. Mais bon, moi, je l'ai vu beaucoup dans les années 70, donc dans cette période vraiment où de free jazz avec ses hauts et ses bas, sur quelquefois. Voilà. Donc c'est ça aussi ce que je trouve intéressant dans le documentaire, c'est qu'on est à un instant T en même temps. Peut-être que un an avant ou un an après, ça aurait donné quelque chose de très différent. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Je vous propose un truc qui date de 1966. Et puis, on en parle après. Et juste après, on passe le premier. On va enchaîner les deux. Voilà. Et je désannoncerai le titre après. Je suis sûr que cela, c'est pas un truc très connu. C'est parti.
We'll be right back.
Alors, je dis un petit mot. Donc, il s'agit du big band d'Yvan Julien, qui date de 1966, qui a eu d'ailleurs le prix Django Reinhardt, et le titre s'appelle Un canard sentimental, puisqu'il fait juste une fausse note à un moment donné. Donc il y a Eddie Louis alors, je me souviens plus exactement, je crois qu'il y a Roger Guérin, enfin toute la clique du jazz français des années 60. Et en fait, c'est pas une des premières, mais en tout cas dans le jazz, c'est un des premiers enregistrements avec Michel Portal. Je trouve ça assez rigolo de l'entendre au ténor. Bon, voilà. Et donc, on va écouter tout de suite...
Justement, avec Eddie Louis dont on parlait.
Oui. Et on va commencer tout de suite par le titre de l'album tiré du film qui s'appelle donc Quelques notes sur la liberté, qui s'appelle Je commence quelque chose là, point d'interrogation.
Bon, je commence quelque chose là.
Jasmine, pardon. Pardonnez-moi, je reprends mes esprits. On parlait hors micro des problèmes de volume sonore dans le studio. J'avais une autre question, mais vous avez déjà un peu commencé à y répondre. Qu'est-ce qu'un jeune homme retrouve chez quelqu'un comme Michel Portal, justement? Et après, j'aurai un petit commentaire personnel, justement.
D'accord. Non, c'est ce que je disais, il y avait une histoire de transmission. Je cherche parce que je suis tombé sur une citation l'autre jour de Nicolas Bouvier qui me fait penser à votre question, et je pensais à Michel Portal. Nicolas Bouvier, donc, dans L'usage du monde, et il dit « Seuls les vieux ont de la fraîcheur, une fraîcheur au second degré conquise sur la vie ». Je trouvais ça super. Et donc, bon, c'est un peu le mot « vieux », là, et un peu pour Michel Portal, je le considérais pas comme un vieux, mais il avait une sorte de fraîcheur, justement, qu'on voit dans le film, incroyable, qui est manifeste dans toutes les notes qu'il joue, quoi. C'est-à-dire qu'il a plus rien à prouver, il est que dans le plaisir pur de la musique, et en même temps il avait une sorte de besoin de d'être dans une conversation à ce moment-là de sa vie. Vous disiez, ça aurait été un an plus tôt, un an après, ça aurait tout changé. Je pense qu'on s'est vraiment rencontrés au bon moment, parce que il avait moins de concerts, c'était juste après le Covid. Il a beaucoup souffert du Covid en tant que musicien, comme beaucoup d'autres musiciens. Mmh. Et donc, ça tombait à un moment où je pense qu'il avait envie de converser. Et donc, ça s'est vraiment fait comme ça, dans une spontanéité totale et qui a rendu le film possible. Parce qu'un musicien comme lui, même au moment où il avait moins de concerts, comme le moment où on s'est vu, les deux ans où on s'est vu régulièrement, il préparait beaucoup les concerts, il angoissait beaucoup avant les concerts, donc il se concentrait, il travaillait beaucoup, et donc voilà, c'était un concours de circonstances dans lequel l'âge jouait, mais c'était pas seulement ça.
À propos d'angoisse, est-ce que, moi j'ai un souvenir de lui au festival de Antibes-Jean-les-Pins, ça devait être en 76 ou 17, je ne sais plus. Il s'est assis vraiment à côté de moi. On était au fond et c'était un concert de McCoy Tyner. Et pendant tout le concert, il m'a juste demandé un truc, je me souviens plus quoi. Vraiment, honnêtement, je me souviens plus, ça a duré 30 secondes. Et pendant tout le concert, il s'est bouffé les ongles des deux mains. S'il avait pu les pieds, il l'aurait fait, quoi. C'était vraiment... c'était assez... on savait, quoi, mais là... Je l'ai vu, de mes yeux vus, c'était très très impressionnant, quoi. Cette angoisse permanente, y compris pour les autres, d'une certaine manière, c'était assez assez étrange, comme si ils s'angoissaient pour savoir si c'était bien, pas bien, si ça allait bien se passer ou pas. Enfin, c'est très étrange. Et puis, une fois que c'était parti, ben il y avait une espèce de tourbillon, quoi, qui... Mais voilà, l'angoisse, c'est quand même quelque chose qui le caractérise.
Oui, l'inquiétude, je dirais presque, parce que dans le sens étymologique de l'inquiétude, c'est que ça l'empêchait d'être tranquille. Il était jamais tranquille, et donc ça l'obligeait à en faire quelque chose, et donc d'où sa productivité incroyable. Et on voyait bien, nous, quand il arrivait donc avec son petit caddie, avec ses deux instruments, ou parfois trois, et donc bandoneon, clarinette basse et saxophone soprano. Et il arrivait vraiment comme ça, comme un enfant, avec avec ses jouets. Et au moment même où il se mettait à jouer, ben là... il n'y avait plus d'air dans la pièce, enfin, dans le théâtre, il se trouve. Donc, beaucoup d'air, il en aspirait beaucoup par sa présence. Et ça, c'est je pense, justement, on parlait des autres musiciens, à mon avis, ou des artistes en général, c'est une façon, comme ça, de sublimer quelque chose de très fort qu'on a en soi. Et chez lui, c'était incroyable de voir ça, quoi. C'est-à-dire, comment ce corps si frêle... produit un tel son avec une telle assurance, alors que en dehors de la musique, il est comme une feuille d'arbre, quoi. Il tremblait, il le disait lui-même, si je fais pas de musique, je deviens complètement fou. Il le dit dans le film et l'album. Et donc ça, c'était une chance. Et justement, par rapport à l'âge, puisque vous parliez de ça, je pense qu'il était aussi arrivé à un moment où il avait pas de filtre, quoi. Il cachait plus rien. Et donc, c'était un cadeau.
Alors, justement, corollaire de ça, est-ce qu'il n'a pas, malgré tout, été un peu comme un acteur devant la caméra avec quelque chose... Vous voyez ce que je veux dire ? Pas du cabotinage, mais...
Oui, bien sûr, oui, bien sûr, il se mettait en scène lui-même, mais je dirais que presque... qu'il était quand même tel qu'en lui-même, parce que même sans caméra, il est comme ça, un peu cabot. Et donc, je pense que la caméra l'a plutôt dénudé que ajouté de la comédie dans ce qu'il faisait, etc. Il était encore plus drôle hors caméra, parce que par exemple, je me souviens, un des tournages, c'était le lendemain de la finale de la Coupe du Monde précédente, puisque là on est en 2026, et là c'était 2022, donc après la défaite de la France contre l'Argentine, et le l'ingénieur du son, qui est aussi le monteur du film, Baptiste Amigorena, est argentin, et il a fait des blagues sur l'Argentine, mais... qu'on n'a pas mise dans le film, parce qu'on ne filmait pas, donc il était encore plus cabot hors caméra. Mais je pense qu'au contraire, moi, la caméra, là, elle sert à le mettre à nu, vraiment, parce que justement, il y avait c'était comme un miroir qu'on lui tendait, et il était, je pense, vraiment déjà... plus bavard aussi sur sa musique qui pouvait l'être en dehors de la caméra. Et aussi, tout simplement, il sentait que, voilà, il enregistrait quelque chose. Il y avait quelque chose qui allait rester, une trace. Et donc, il donnait tout, littéralement. Ouais. Les séances duraient entre 3 et 4 heures. C'est nous qui devions l'arrêter, notamment le chef opérateur, parce que la caméra était lourde, Laurent Fénat. Et c'est lui qui devait dire, bon là, on coupe. Alors que Michel Portal, il continuait inlassablement. Donc, je crois pas que ça l'ait transformé comme un comédien. Le documentaire, justement, a cette force-là de révéler les gens tels qu'en eux-mêmes, plus que la fiction, je pense.
Il a vu le film ?
Oui, il l'a vu, il le voit même pendant le film, on lui montre les rushs, et il l'a vu terminer, oui.
Et c'était, ça aurait été bien de le
filmer. Voilà. Bah, on le, c'est déjà dans le film. Hein. Après, le moment où il a vu le film entièrement terminé, il a continué toujours pareil, à chanter les notes, et à parfois froncer des sourcils, d'autres adorer la musique, mais il se, il n'avait pas de plaisir narcissique. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur le... Évidemment qu'on n'a pas plaisir à réécouter sa musique quand on est musicien, parce qu'on est dans le présent et dans le futur. Mais lui, c'était pas quelqu'un de narcissique, c'est ça que je voulais peut-être ajouter. C'est qu'il était vraiment au service de la musique, je pense. En tout cas, tel que je l'ai connu.
Autre question plus d'ordre plus pratique, est-ce que le film repasse bientôt ou quand, comment ?
Eh bien, alors là, il faut que je triche parce que je ne connais pas tout par cœur, mais il repasse dans plusieurs festivals cet été et jusqu'à la fin de l'année. La liste est sur le site de la production Mélisande Film et sur les réseaux sociaux, mais il passe à Marciac, il passe à Dinan, il passe au festival de Luba cet été à Uzest. Il passe à Colmar, il passe encore, je sens que j'en oublie, mais peut-être on pourra l'indiquer sur votre site ou je pourrais le redire tout à l'heure.
Il n'y a pas de souci. Il y a eu un film il y a très très longtemps, un peu du même, dans le même esprit, avec Sam Rivers et Gordon Beck. Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
Non, ça. Je ne l'ai pas vu.
Et c'est rigolo parce que on est sur deux personnalités différentes, un Anglais avec une éducation musicale classique et Sam Rivers qui travaille à l'américaine, c'est-à-dire avec des grilles d'accords, et ils s'engueulent. La musique est magnifique, mais ils s'engueulent, donc tout ça est filmé aussi, c'est assez étrange. Je ne sais plus si on arrive à le trouver, mais il y a des rares films comme ça. Effectivement, on a des captations de concerts, mais sur la cuisine comme ça, il n'y en a pas beaucoup finalement. Je propose une pause musicale. Alors là, c'est très très personnel. Pour une raison simple, c'est que j'étais à ce concert, hein, qui donc pas tout jeune. C'est le concert avec le regretté Léon Francioli et Beb Guérin, et puis évidemment Bernard Lubin. C'était à Château-Vallon en 76, donc j'étais au 15e rang avec mes amis. Et je ne l'avais pas réécouté depuis, j'allais dire depuis 76 quasiment. Hein, donc voilà, là on est dans une... on est embarqué dans quelque chose de complètement dingue. Et je pense, après avoir revu... Et les photos que j'ai faites... De cette époque, je pense qu'on a un peu l'esprit plus de Bernard Lubin, mais j'ai deux titres à passer, et là, justement à propos de l'aspect lyrique et sensible, il y en a un deuxième que j'avais complètement oublié. J'avais plutôt l'impression de cette espèce de folie de ce concert, mais il y a un titre tout de suite après qui est assez, assez sensible. Et je me souviens d'une anecdote qui était parue dans le Jazz Mag peu de temps après en disant c'est dommage que Bernard Lubin ou Michel Portal joue des poils à frire, et sa mère avait répondu mais c'est le seul à bien en jouer, donc voilà, c'était plutôt... Donc on va passer, si ça t'ennuie pas Franck, le 2 et le 3 enchaînés. Un petit peu long, c'est un peu hard, mais voilà, ça, c'est parti.
Ah!
Radio Liberté 89.4. Alors, le premier titre de donc ce Michel Portal Unit à Château-Vallon en 1976 s'appelle À la niche, hein, puisqu'on les entend aboyer au tout début, et l'autre s'appelle Angels, celui qui est beaucoup plus lyrique. Et donc, il y avait Bernard Lubat aux percussions, autres voix et synthétiseurs. Donc, c'était aussi un des aspects de cette lutherie, Léon Francioli et Bébé Guérin, et malheureusement, tous les deux disparus, dont un qui s'est suicidé. C'est assez triste. Donc voilà, ça fait aussi, on passe vraiment sur une ambiance complètement différente de Mozart.
Justement, puisque vous parlez de Mozart, vous parliez de films... de ce film qui vous est pensé au mien, et je voulais quand même citer ce film dans lequel apparaît Michel Portal et qui pour moi est vraiment très important, le film de musique, et justement avant même de faire ce film c'était déjà un film de musique important pour moi, et donc ce film c'est le concerto pour clarinette de Mozart réalisé par Francis Marmande et Jean-Louis Comolli, et il a ce même désir, ce film, de rentrer justement dans la cuisine de l'interprétation dans ce cas-là, puisque c'est Il s'agit de Mozart. Mais voilà, c'est un film que j'aime citer parce que c'est un film de bonheur, de musique aussi. Et je pourrais le revoir à l'infini.
Bah, quand on est passionné de musique, on aime bien voir des films sur les musiciens. Moi, je trouve qu'on vit une époque à la fois horrible et en même temps géniale. Je dis ça souvent parce que sur la toile, on trouve des choses que nous, par exemple, de ce côté de l'Atlantique, n'avions pas vues. J'ai par exemple vu des bandes assez atroces en termes d'image, mais peu importe, mais des captations de Leni Tristano avec Warren Marsh, Likonitz. Des trucs, on savait même pas que ça existait. Enfin, c'est des trucs incroyables. Des trucs de Chelyman, même des vidéos de Gary Peacock, de Scott LaFaro, pardon. Des trucs vraiment, ça on sent, c'est les États-Unis ont, évidemment, mais nous on n'avait pas accès à tout ça. Et là, on a ça. Je trouve que c'est vraiment génial parce que ça permet de resituer à la fois l'époque et le processus créatif des musiciens. Il y a un film aussi comme ça de Weather Report avec Miroslav Vitus qui est absolument incroyable, 1971 ou 12, je sais plus.
Les films de Nicolas Humbert aussi, il a fait un film sur Youssef Latef qui s'appelle Brother Youssef, où il filme uniquement le visage de Youssef Latef en train de jouer et parler.
Latif.
Je l'ai toujours prononcé Latef sans savoir Latif.
Alors nous, entre musiciens, on l'appelait Latouf. Hein, comme il était jour chaud, évidemment.
Latif. Et donc, c'est aussi un grand film de musique.
Ouais, magnifique musicien qui a beaucoup joué dans le sextet de Cannonball et qui a été, pas un des premiers, mais un de ceux qui a utilisé le hautbois. Un des premiers à utiliser le hautbois, c'était Bud Shank et Bob Cooper dans les années 50, enfin un tout petit peu avant. Mais c'était assez génial parce que il pratiquait la respiration continue comme Roland Kirk, donc très très impressionnant. Avec on est un peu essoufflé à la fin. Oui, je voulais rajouter quelque chose à propos de l'âge. Le jazz a pour vertu d'avoir rassemblé depuis toujours un peu tous les publics. Et souvent, on me reproche, c'est une musique de vieux, avec que des vieux. Alors oui, mais il n'y a pas que des vieux, il y a aussi des jeunes, même des très jeunes, quelquefois même des enfants qui viennent. Alors peut-être les enfants de la famille, mais peu importe. J'ai toujours vu ça depuis que j'écoute cette musique, ça remonte à loin. Hein. Et Franck pourrait aussi le confirmer, dans les concerts, c'est vraiment très mitigé. Et en ce sens, c'est une musique d'initié et en même temps universaliste, ce que je trouve passionnant quoi, dans cette musique. Comment vous êtes venu au jazz, vous ? Par exemple.
Ah ouais, c'est quasiment ma seule éducation du côté paternel. Je lui rends hommage et en même temps on lui envoie une pique. Ah. Parce que non, mais c'est vrai que c'était la chose sur laquelle on rigolait pas chez moi. C'était le jazz. Ouais, c'était vraiment un truc qui a marqué. En fait, le père adoptif de mon père et mon père ensuite, et donc ses enfants, et donc moi ensuite aussi. Et il y a vraiment quelque chose de très, très important là, chez nous, avec le jazz, quoi. C'est un langage commun, justement, en parlant de langage. Et donc, peut-être ça a facilité, en effet, mon approche de Michel Portal. C'est-à-dire que, je suis musicien aussi, mais pas de jazz, mais j'écoute énormément de jazz, et donc pour moi c'était tout à fait naturel quoi, de parler en jazz ou en musique improvisée, pour le dire plus largement, avec Michel Portal. Et donc voilà, j'ai appris à écouter depuis longtemps la musique. Voilà. Le classique, c'est venu beaucoup plus tard, par exemple. Il m'a fallu d'autres passeurs ou passeuses. Mais je pense qu'il y a vraiment un savoir écouter, et pour cette musique-là, j'ai l'impression d'avoir fini par apprendre à écouter, si on peut finir. Ça, c'est infini, mais en tout cas...
Oui, c'est complètement infini. Et puis, quand on voit la production de disques, c'est incroyable. Hein. Je trouve une prolifération. Enfin, c'est... Moi, je suis toujours sûr... Je ne peux pas, d'ailleurs... suivre par moment, quoi. Bon, je reçois pas tout, j'ai dit heureusement, parce que je pourrais pas, mais c'est assez étonnant. Frank Zappa disait que le jazz était pas mort, mais il sentait pas bon, mais je suis pas d'accord, je crois qu'il est toujours... Alors, c'est plus celui que moi j'ai connu, mais encore que tout ce qu'on vient d'entendre était quand même assez... comment dire... ça dépote, quoi. C'était un peu musique vraiment libertaire. Mais non, ça continue. Et, alors, bon, il y a d'autres problèmes. Je pense qu'il y a aussi une technicité qui est venue grâce ou à cause des écoles. Ça, c'est un débat qu'on a souvent, qu'on a eu avec Thierry Maillard, là, récemment, qui était invité. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. C'est toujours là, et les concerts sont pleins. Et moi, je suis toujours assez en colère quand j'entends les gens dire oui, le jazz, musique élitiste, de vieux, etc., etc. En Europe, avant que la crise ait un peu raboté pas mal de choses, dans les mois d'été, les deux mois d'été, il y a en Europe... 600 festivals, c'est incroyable. Entre l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse, la Hollande, la Belgique, partout, les pays de l'Est européens, c'est dingue. Donc on vient de pas me dire que c'est pas une musique... Alors, c'est pas forcément une musique populaire, mais c'est pas non plus une musique qui... Voilà, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais à part égale.
Alors moi, je me suis débarrassé de cette question il y a un moment, parce que je me souviens, la Villette, Jazz à la Villette, ils avaient comme slogan « Le jazz est mort, vive le jazz » ou un truc comme ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était une très mauvaise idée, même de s'emparer, même du sujet, d'en parler. Parce que pour moi, justement, c'est vraiment une musique religieuse. C'est un truc très intime. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour laquelle... on n'a pas forcément d'image d'auditeur du jazz comme on peut en avoir par exemple de l'électro, où là vous avez des festivals entiers avec des gens de 20 ans qui dansent dessus, etc. Je pense que c'est vraiment une musique qu'on écoute de façon intime.
Oui, mais l'électro,
intime.
C'est pas de la musique.
Oh, si, moi j'aime beaucoup l'électro aussi, mais ce que je veux dire, c'est que je vois que vous... J'espère que vous ironisez, mais ce que je veux dire, c'est que... pour moi, poser la question, c'est l'enterrer, au contraire, le jazz. Je pense qu'il y a vraiment pas, c'est même pas une question, parce que c'est trop vivant, quoi. Même le jazz actuel ou pas, c'est trop vivant, c'est trop direct, c'est un truc qui est complètement, c'est vertical, quoi. Il n'y a pas de.
J'ai noté le côté religieux. Ici, on est ni maître ni dieu, mais j'ai toujours. Essayer de faire comprendre aux auditeurs que le jazz c'est une musique pas forcément religieuse, mais en tout cas spirituelle.
Spirituelle, oui, c'est mieux, spirituelle.
Oui, alors il y avait aussi des mystiques comme Coltrane, Youssef Latif notamment, et d'autres, mais enfin, surtout les États-Unis, parce qu'il y a quelque chose de très particulier à ça. Mais Jacques de Jonnet avait bien explicité ça dans un de ses blogs sur la spiritualité dans le jazz. Et en fait, si on n'a pas cette approche, on ne comprend pas cette musique, en fait. Enfin, ou on ne la sent pas, on n'arrive pas à être dans cette dimension qui est une relation cosmique, en réalité. Comme Mozart ou Beethoven pouvaient l'être, c'est pareil. Hein. Et dès le début, hein, Louis Armstrong disait « Notre musique est un ordre secret ». C'est clair, enfin, vraiment. Et on le ressent dans toutes les facettes du jazz, en réalité. Le côté le plus mécanique, comme le jazz rock, par exemple, enfin, ce qui s'est appelé après la fusion, mais non, moi, je l'ai connu au temps du jazz rock. Mais il y avait ça aussi, quand même. surtout chez Herbie Hancock, mais chez les autres aussi. Et donc, vous jouez quoi comme instrument ?
J'ai fait de la guitare classique, que j'ai arrêtée, et maintenant je fais du chant lyrique, et justement, dans la musique lyrique ou les chœurs orchestraux, l'esprit qu'on met dans la musique est très important, parce qu'une même interprétation jouée sans âme, ça perd complètement son intérêt. Donc, en effet, le mot spirituel est mieux que religieux, parce que ça enlève toute l'institution, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça dans la musique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, quand on leur demande « Est-ce que vous croyez en quelque chose ?» Souvent, ils ramènent ça à la musique. Enfin, l'endroit où je crois le plus, c'est à travers la musique. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour, un Américain justement. Je trouvais ça assez fort. Je pense qu'il était vraiment croyant, mais il m'a dit l'endroit où je crois le plus, c'est à travers la musique. Je trouvais que c'était assez juste, parce que je pense que c'est un accès à quelque chose comme ça, supérieur.
Mais je pense qu'il y a des expériences en tant que musicien qui sont de cet ordre-là. Je crois qu'on a tous plus ou moins ressenti à un moment donné, alors les anglo-saxons appellent ça le flow, mais on pourrait appeler ça, l'égrégore ou une communication. À un moment donné, il y a quelque chose qui traverse le musicien et presque qui se voit jouer avec une espèce de fluidité, enfin quelque chose qui est très fugace en plus, hein, ça ne dure pas longtemps. Et qu'on essaye toujours de reproduire, mais qu'on, pas forcément, hein, mais il y a quelque chose de cette grâce, en fait, qui est du domaine de l'indicible, qu'on essaye toujours de retrouver. Et je pense que la voix a quelque chose d'un peu plus fort par rapport à... En fait, on essaye tous, en tant qu'instrumentiste, de faire comme si c'était du chant. Je pense notamment au groupe Tex-X. Vous connaissez ?
Non.
Il faut écouter ça.
Je connais Take Five.
Ben oui, justement, c'est un groupe vocal. Ils sont six, donc Tex-X, qui est évidemment le clin d'œil. Et ils font à un moment donné, quand ils chantent, on a l'impression d'avoir un orgamon, quoi. C'est avec des arrangements j'adore. D'une modernité incroyable. Ouais. Et le directeur artistique, que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appelle Jan Puerling, qui est un flûtiste, et ça a été le fondateur du groupe de chanteurs de la West Coast qui s'appelle The High Lows, et qui a après fait les Singers Unlimited.
D'accord.
Donc il y a les High Lows, Singers Unlimited, et puis il est donc le directeur artistique de Tex-X, et il faut absolument écouter, c'est transcendant, mais vraiment transcendant. Là, on est dans une dimension du chant qui est tout à fait autre. Et puis, il y a évidemment, pour moi, le plus grand chanteur de jazz à l'heure actuelle, c'est Kurt Elling. Là, Kurt Elling, c'est pareil, il faut... Bon, je m'égare. Et on va écouter deux extraits à la suite du truc. On va écouter le 2 et le 3. Alors, les titres s'appellent Des croisements que je cherche et Quelque chose qui sort de l'âme. Donc voilà, on est complètement dans le...
Donc tiré de l'album, quelques notes.
Tiré de l'album, tiré du film.
C'est ça.
Quelques notes sur la liberté. Donc le 2 et le 3.
Des croisements que je cherche, quoi. Cherche des croisements de la musique. Thank you. il n'y a pas de musique écrite devant moi, là. Donc, pour moi, ça, quand je joue ces choses-là, ben quand j'entends le son qui n'est pas si mauvais que ça, je me dis, ça vaut le coup. C'est ça que je me dis. C'est-à-dire, on a l'impression de parler, quoi, finalement. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire, c'est uniquement quelque chose qui sort de l'âme, comme ça, qui a envie de chanter, comme ça, tranquillement, quoi. C'est ça, l'histoire. Là, je vais commencer à pleurer, c'est dommage.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que ça fait de réécouter? Et la deuxième, en tant que créateur, qu'est-ce que ça fait de re-regarder son film?
Ah ben, j'ai failli le dire tout à l'heure. Pour la deuxième question, c'est pareil. Si vous vous remettez à revoir les films que vous avez faits, c'est, à moins d'attendre un peu de temps, mais c'est trop dur. Il faut surtout pas. C'est du passé, c'est déjà. Mais en même temps, avec une certaine distance, ça peut être une bonne expérience. Mais je pense que ça vaut pareil. Je pense pour les gens qui font des films ou que sais-je. C'est du présent quand même quand on fabrique des choses comme ça. Donc non, je pense que on revoit pas plus les choses qu'on fait que les musiciens. En tout cas pour ma part. En revanche, quand il y a des projections, selon la salle, selon l'atmosphère, ça m'arrive de le revoir. L'autre fois, il était à l'Institut de l'Image à Aix-en-Provence en collaboration avec le Petit Duc, qui est une super salle de musique. Ils ont passé le film, donc, il y a 3 semaines, et je suis resté à l'extérieur de la salle, et pour la première fois, je n'ai fait que écouter le film, parce qu'on entendait dans les Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, l'Institut de l'Image. Et donc, j'ai fait le tour des Beaux-Arts, qui est un endroit absolument incroyable, en entendant la musique du film, et donc, c'était tout à fait nostalgique comme moment. Et justement, cette musique, je crois, elle est aussi, elle a une nature comme ça, mélancolique. Arnaud Merlin, qui a présenté le film au Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés, parlait de musique élégiaque. Et il retraçait comme ça toute l'histoire de l'élégie en musique, et il en parle bien mieux que moi. Mais je trouvais ça très juste, comme mot, que c'était un musicien élégiaque. Et donc, ça me permet de répondre à votre première question. Quand je réécoute cette musique, moi aussi j'ai envie de pleurer. Je pense que c'est l'effet, c'est ce qu'il mettait dedans. Et voilà, non, c'est un cri, c'est une plainte, c'est plein d'émotions à la fois. C'est aussi de la joie. Il arrive comme ça à avoir une palette. D'émotion, d'expressivité incroyable. Quelqu'un d'autre, un musicien extraordinaire aussi, Sylvain Cassap, qui l'a vu, m'a dit « Mais tu sais, Michel Portal, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, quoi. Il a, à l'intérieur de lui, il a tellement de musique, c'est l'équivalent de la bibliothèque d'Alexandrie. » Et donc, je trouvais que c'était une image géniale pour le décrire. Et dans le film, c'est un peu ça. On l'ouvre, quoi, comme des... comme on faisait dans la peinture. Vous savez, cette séance de... C'est qui encore ce peintre qui fait cette séance de... où on ouvre un cadavre, c'est un tableau fondamental
Rembrandt.
De Rembrandt, merci, de la séance d'anatomie. On a un peu fait ça avec Michel Portal. Et en l'ouvrant, on a vu cette bibliothèque d'Alexandrie, et le film et l'album, c'est ça, c'est la, toute la progression qu'il y a dans sa musique, comment elle se déploie, comment elle naît, comment... Et je pense que... Pour ça, le cinéma, et le cinéma documentaire en particulier, ça a épousé cette forme très, très facilement, parce que je pense que ce film, il fait partie de ces films où on se laisse porter comme dans une musique. C'est-à-dire que c'est pas un film narratif, c'est un film musical, au sens vraiment où il se déploie comme une musique. C'est comme un grand morceau qui dure 55 minutes.
Mais oui, je pense qu'il y a une difficulté dans le documentaire, justement, d'attraper le spectateur sur un sujet assez pointu. Et bon, alors, sans doute... c'est a priori des spécialistes qui vont le regarder ce film. Et
pas que, non.
Mais c'est pas que, justement.
Non, c'est les deux, parce qu'il y a plein de gens qui le connaissaient pas. Je faisais le test à chaque projection, il y avait toujours un quart de la salle qui le connaissait pas. Mais il est connu quand même, Michel Portal.
Oui, il est connu.
Alors, même des gens qui ne connaissent pas le jazz.
Oui, il est aussi connu, évidemment, dans le monde du classique.
Exactement.
C'est,
voilà.
C'est pour ça que...
Ouais. Et des musiques de films, et de la musique contemporaine. Ça
et de
fait
la musique
beaucoup.
Contemporaine.
Ouais.
J'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un délai aussi long entre le tournage et la projection en salle, finalement?
Eh bien, parce que c'est des films, justement, qui demandent du temps, comme... comme cette musique en a demandé, c'était pas du tout préparé. Voilà, c'était 2 ans déjà de tournage avec lui. Ensuite, le temps de le monter, de le post-produire et de faire cet album, tout ça, ça a mis un certain temps en fait. Hein. La première du film a eu lieu il y a un an, en juin 2025. Donc, il a fallu 2 ans pour finir le film. Et puis, c'est aussi le temps de le produire, c'est des aventures de production qui sont longues. Ouais.
Bien. Eh bien, on va écouter... on va écouter un truc. C'est le numéro 7, si tu veux bien. Et après, on écoutera... le numéro 4... Le 7 sur le... Non, le 7 sur l'ordi, pardon, excuse-moi. Je donne mes... Voilà, on est un peu artisanal, hein, c'est pas France Culture ni France Inter. Donc, c'est bon ? Ouais, parce que là aussi, c'est encore une autre vision des choses que je trouve intéressante. C'est parti. Here come. Boom. Here we go, here we go. 1, 2, 3, 4. Walking on the streets of Paris one day. Hanging out with the girls, trying to play. You understand, it's really a hot day. I'm trying to have some fun, kicking it out. You know what, then I see the man coming down the street with his horn. What's he gonna do? I say, man, can you blow? He looks at me and says, yeah, my name's Michelle. Oh well, you know I can get down, I'm trying to get down. Can't you really smell the funk coming out of my horn? You know it's really not a scorn. I said, man, I play the bass, I'm torn. I wanna get with you and see if we can groove and have some fun and see what we about to do. I wanna let you know that things are really funky here. You know the music's really kicking when you're looking at and listening in your ear. Can't you see? It's not about playing games, it's real, you see. I wanna tell you one thing right now. Michelle is a friend of mine. I wanna tell you one thing right now. Michelle is a friend of mine. I wanna tell you one thing right now. Michelle is a friend of mine. I wanna tell you one thing right here. Michelle
alone as a friend of mine. Eeny, meeny, miny, mo, the fool's hanging out. He don't understand what it's really all about. You know, he just thinking he can play guitar. All these damn things that he ain't gonna go far. Ain't no funk in his blood. He need to come over and listen to these other people get a little love. Don't you understand what I'm trying to say? There's something going on he doesn't understand anyway.
Pas de musique, je deviens complètement fou. Mais il faut pas que je le dise aux autres. Thank you. j'ai joué cette histoire, je serais incapable de la refaire maintenant. Ou alors, si je l'écoute, je la refais. Mais j'ai pensé que cette dernière-là, elle vit. Elle me ressemble, quoi.
Jazz Libre Radio Libertaire, alors, c'est rigolo parce que dans ce morceau-là, il y a énormément de choses. Il y a à la fois quelque chose de très classique, et puis il y a cette blue note, typiquement du jazz, et puis la pentatonique qui est vraiment les gammes du blues, et les flatter zones qui sont typiques de la musique contemporaine. Là, il y a vraiment une sorte de condensé complet de la panoplie de ce qu'on peut faire avec une clarinette basse. Enfin, j'imagine qu'il aurait pu faire d'autres choses en plus, parce qu'on peut faire même du multiphonique, ce qu'il a presque fait d'ailleurs. Et bon, moi j'adore la clarinette basse parce que, bon voilà, c'est avant Portal, c'est pour moi c'est Dolphy. Bon voilà, mais c'est très perso.
Pour lui aussi, c'est Dolphy.
Portal, je l'ai tellement vu que je. Voilà, j'ai en plus emmené mon père, j'ai traîné mon père dans tous ses concerts, donc voilà. Et ce qui est très rigolo, c'est que. J'ai réécouté Splendid Isolement, beaucoup de choses avant de venir, et je me disais que ça m'est vraiment apparu avec Bernard Lubin, où il se fait embringuer dans. Mais il y a aussi beaucoup joué avec Henri Texier, et on sent dans les compositions, dans les thématiques d'Henri Texier, de Portal, quelque chose qui alors je sais pas si c'est une interaction ou mais il y a quelque chose de bon. Henri Texier, c'est un habitué, c'est presque un ami, et voilà, ça a été vraiment un truc que j'ai ressenti réentendu dans certains de ses albums. J'avais une autre question sur justement l'enregistrement musique. Est-ce que le documentaire a été conçu directement en même temps qu'avec le disque?
Non, ça s'est fait en deux temps. Le film a été fini avant, et ensuite il y a eu l'idée d'en faire un disque. Ouais.
Parce que le son est bon, donc comment ça a été
pour le film? On voulait absolument que le son soit bon, parce que c'était un film de musique. Il y avait minimum 3 ingénieurs du son à chaque tournage, quand même. Donc c'était fondamental. Non, on pouvait pas faire pas bien. Après, on a refait un mixage au moment de l'album. Et donc voilà, il y a peut-être, c'est peut-être encore mieux que ça aurait pu l'être s'il y avait eu que un film, parce qu'il se trouve qu'après, une fois que l'album a été fait, on a reporté le mix qu'on a fait de la musique de l'album sur les morceaux du film. Donc peut-être ça a joué, mais non, dès le départ, le son était fondamental dans le projet.
Ouais. Non, parce vous auriez pu également faire un film at home. Chez lui, par exemple, avec un son pas forcément.
Lui, il voulait pas qu'on vienne chez lui. Non, lui, il laissait peu de gens rentrer chez lui, parce que tout simplement, quand vous étiez chez lui, vous marchiez un pied à droite, vous étiez dans Mozart, le pied gauche, c'était Piazzolla. Et donc, j'ai essayé un moment, mais en fait, c'était un peu bête, parce que c'est trop intime, quoi, d'aller chez les gens. Et là, c'était au contraire, c'était. Il faisait un pas vers nous, on faisait un pas vers lui. Et donc, c'était. Vraiment, pour lui, c'était intéressant, parce qu'il était seul, quasiment pour la première fois, pendant de longues heures, dans un théâtre, à jouer, c'était...
Il l'a fait quand même avec Dejarme Solo.
Oui, mais Dejarme Solo, c'est en studio, et avec cet ingénieur du son, Claude Hermelin, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, je ne me souviens plus,
et donc, c'est un peu différent. Là, il était vraiment face à lui-même, tel qu'en lui-même. J'adore Dejarme Solo. Hein. Le Dejarme Solo, c'est le père de cet album. mais en tout cas, je crois qu'on a quand même fait quelque chose d'assez inédit, parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Mais moi, je ne vais jamais y arriver. Appelez-moi Lionel Loueke. Appelez-moi d'autres musiciens, etc. Au secours. » Et puis à un moment, il a arrêté de demander ça, parce qu'il a compris qu'il s'agissait d'autre chose. Quoi, que c'est pas... y a quelque chose d'archéologique dans le film et dans l'album. On est allé, on a fait des fouilles, quoi. C'est l'image de Rembrandt, quoi. Ça. Mm-hmm.
Vous l'avez recousu quand même.
On l'a recousu, il s'est recousu tout seul. Il est trop rapide, il est plus rapide que la musique.
Au tout début de l'entretien, vous disiez, et donc, parce qu'on a la productrice.
On a la chance d'avoir Sophie Faudel.
Vous aviez dit, sans elle, le film n'aurait pas pu sortir. Donc j'aimerais avoir quelques éclaircissements, là, quand on arrive en fin d'émission.
Oui, c'est que vous vous demandiez la genèse du film. Et donc le film est né d'un autre film que Sophie a produit. Et pour lequel elle m'a invité à filmer l'enregistrement, justement. Qui a donné d'ailleurs un album magnifique aussi. Ça s'appelle Un été à la Garoupe. Et de François Lévy-Kunst. Et donc, j'ai filmé ce moment, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Michel Portal. Et donc, rien que comme ça, déjà, le film était dans une filiation avec à la fois les productions de Mélisande, qui est la production de Sophie et du film, et aussi de l'histoire de Sophie, qui, par ailleurs, avant d'être productrice, a travaillé dans le théâtre musical. Et donc, je pense que tout ça a beaucoup joué, parce que produire un film pareil, c'était pas du tout évident. Personne n'attendait ce film. Maintenant qu'il existe, tout le monde, je crois, est heureux, et moi en premier, qu'il existe.
Oui, puis en plus, c'est presque testimonial, parce que...
Voilà, on n'a pas du tout pensé le film comme ça, parce qu'au moment où on l'a vu, il était vraiment, on le voit dans le film... dans une forme incroyable, mais en tout cas voilà, c'était un défi et un pari, et pour lequel il y avait une logique qui, je dirais, était pas complètement celle d'un film documentaire, mais aussi d'un moment musical. C'est pas tout à fait le même, le même monde. Et pour ça je remercie Sophie qui est là.
Quelques mots, Sophie.
Quelques mots. Ben non, pour vous dire qu'en fait, c'est vrai que j'ai quand même pas mal travaillé dans la musique avant d'être productrice de documentaires, dans la musique contemporaine. J'ai beaucoup travaillé avec le compositeur Georges Apergis, donc, et le théâtre musical. Ce qui fait que, pour moi, d'ailleurs, Michel Portal avait créé des œuvres de Georges Apergis. Je connaissais Michel Portal déjà un peu avant. On avait beaucoup d'amis musiciens en commun. Et pour moi, il fallait faire un film de musique et pas un documentaire sur un musicien. Et c'était ça l'idée. Et comme le film n'a pas été fait grâce à la télévision ou au cinéma, mais grâce à Radio France, en fait, qui nous a mis à disposition le théâtre de l'Alliance Française gratuitement, qui se trouvait juste à côté de chez Michel Portal, eh bien, toute cette synergie, on va dire, a créé un film musical, puisqu'il n'y avait pas d'attente de diffuseur sur le moment. Et donc, on a fait avec les moyens du bord, parce que c'est un film qui a été fait vraiment de façon très économe, on va dire. Et ça a donné un film de musique qui était, en tout cas, connaissant pas très bien Michel Portal, mais ayant quand même pas mal de connaissances en commun, je savais que c'était quelqu'un qui n'allait pas parler de sa vie, de comment il avait vécu la musique. Enfin, c'était pas du tout quelqu'un qui voulait parler, il voulait juste jouer. Donc c'est comme ça que le film, on l'a suivi dans ce qu'il savait faire, et il savait faire que ça. De la musique, et c'était là, et c'est ce qu'il a prouvé en étant filmé, et qu'il était que musique. Et voilà, donc je suis ravie que le film puisse exister malgré un peu les complexités de la production. Et tout le monde est très content que le film existe, en tout cas parmi les musiciens et sans doute aussi des spectateurs de films.
Oui, oui, je pense que c'est un témoignage. Oui, important. Et comme je le dis toujours, moi, j'essaie toujours de souligner l'importance des hommes et des femmes de l'ombre. Parce que, évidemment, le musicien est celui qui est en lumière. Mais derrière, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, je parle pour le jazz, typiquement, entre les producteurs, les ingénieurs du son, les tourneurs, les patrons de clubs, les attachés de presse, les journalistes, les radios, enfin, on fait ce qu'on peut. Bon, en plus, le champ culturel est de plus en plus attaqué. Hein, donc, moi, je pense qu'on finit par avoir une sorte de figure de résistance dans cette époque de merde. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Je me permets. En tout cas, merci à vous deux. Merci Sophie. Merci Benjamin.
Peut-être je peux juste annoncer,
oui, parce que
je n'ai pas toutes les dates, mais vous me demandiez donc les dates. Allez. Où le film repassera. Donc j'ai eu le temps de vérifier. Il passera donc à Marciac entre le 20 juillet et le 5 août, à Uzest Musical le 17 août, Ciné Jazz en Place à Dinan le 24 août, au Anglet Jazz Festival le 3 septembre, Jazz à Colmar le 26 septembre, La Rochelle Jazz Festival du 7 au 11 octobre, à Cinésic à Vernoux en Vivarais le 7 novembre,
ah, incroyable.
À Jazz à Nevers le 11 novembre, et à suivre, et l'album est disponible sur toutes les plateformes et aussi en physique.
Oui, c'est incroyable. Un très joli petit train touristique à vapeur. très chouette région. Merci beaucoup. Je recommande évidemment de voir ce film, dont je rappelle le titre Quelques notes sur la liberté. Et vous avez les dates, donc très bien. Et puis, il nous reste 5 minutes. Je vous propose de terminer sur un duo qui, je trouve, était presque, comment dire, inévitable et en même temps qui a mis du temps pour arriver. C'est le duo entre Michel et Martial Solal, qui est mon grand regret de ne pas avoir... Il a toujours refusé de dire dans mon émission, non pas par Michel, hein, mais Martial. Et puis Michel, bon, je n'ai pas pu non plus. Quelquefois, on a des regrets de s'agiter un peu plus. Bon, voilà. Merci, et puis dès que vous faites un autre film musical, n'hésitez pas, et puis je vous donnerai tout ce que j'ai en tête là sur ce dont on a parlé en micro. Voilà, merci Fraterni Swing, on se retrouve la semaine prochaine pour GMC+, pour une rediffusion, et dans 15 jours pour la suite des nouveautés qui continuent de s'accumuler. Voilà, soyons forts contre l'adversité et protégez-vous de la chaleur. Bye bye Fraterni Swing, à très bientôt, et donc le duo Martial Solal, le titre, alors j'ai choisi ce titre parce que le titre s'appelle « Moins de 36 ».
Merci c'est à d'actualité. Vous pour l'invitation encore.
Merci, à très bientôt. Thank you.
Radio Libertaire 89.4
Epsilonia.
Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire.
J'ai oublié le nom de la radio.
Radio Libertaire.
C'est Epsilonia. C'est Epsilonia l'émission.
Sa diffusion porte en germe son effacement progressif.
Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, j'espère que vous êtes bien relax.
Radio Libertaire, la voix sans dénimée de la Fédération anarchiste.
Thank you.